Bienvenue dans Cast, une série de rencontres audio en toute intimité avec les personnalités qui font la mode d'aujourd'hui. Avec Nicolas, si on a décidé de lancer ce format, c'est pour vous dévoiler les dessous d'une industrie bien souvent idéalisée et vous entraîner avec nous dans les coulisses de la mode. Cast, c'est un peu comme une place en first row qu'on vous offre pour découvrir tous les visages et tendances de l'industrie. À travers le parcours de nos invités, des dirigeants, des mannequins, des designers et des talents en tout genre, nous aborderons sans tabou, et j'insiste bien sur le sans tabou, toutes les thématiques qui touchent l'univers de la mode.
I do not want to comment.
Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
C'est la Fashion Week ?
Ils se mettent sur le trottoir, les fashion.
It's fashion art.
It is. Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous.
Ok, you know now, les dés sont jetés. It means like, what can happen, you know ?
That's all.
Donc cette semaine, on reçoit Olivier Lafrontière, qui est le fondateur de l'agence Girl Management, connu pour ses choix audacieux et son positionnement fort dans l'industrie du mannequinat. Bonjour Olivier.
Salut.
Merci d'être venu.
Merci, merci pour l'invitation.
Écoute, on va rentrer direct dans le vif du sujet. On aimerait que tu nous racontes ton parcours, disons de la scolarité jusqu'à aujourd'hui, ton arrivée avec Girl Management. Donc voilà, les petites anecdotes et puis le parcours, ce qui intéresse vraiment les gens, c'est ça.
Ok, alors donc je suis né à Champigny-sur-Marne dans le 94, dans le Bois-l'Abbé. On a entendu parler ces derniers temps parce qu'il y a eu le commissariat où je vivais juste à côté qui, une fois de plus, s'est fait attaquer. Mais bon, ça a toujours été toute mon enfance. Ensuite, ma mère, après avoir entendu « Tenez-vous bien », je crois que c'est 15 ans, un logement à Chennevières-sur-Marne, dans la ville à côté, 15 ans, ouais, vous avez bien entendu. Ouais.
C'est dingue.
Parce qu'on était trois avec mon grand frère qui était vraiment beaucoup plus vieux que moi, il a plus de 15 ans, ma sœur qui a 9 ans de plus que moi et moi qui suis le petit dernier. Donc moi, je suis celui qui, à l'âge de 6 ans, connaît... la chance de la jolie petite classe moyenne avec des copains de classe qui resteront les mêmes copains jusqu'au secondaire, qui sont devenus juges, polytechniciens, etc. Là où ma sœur et mon frère...
Ton frère, ils n'ont pas eu le même choix.
Ils n'ont pas eu du tout le même type de copains d'école et définitivement, ça a joué sur le parcours. Donc je grandis là-bas, j'ai la chance d'avoir une maman qui est un peu un télo, donc je suis très rapidement introduit à la culture qu'on pourrait appeler la culture d'élite, hein, donc les Victor Hugo, les Stendhal, etc. Il y avait tout ça à la maison, une partie de la famille qui est un petit peu bourgeoise aussi, qui a énormément joué sur mon parcours personnel et par la suite professionnel.
C'est-à-dire beaucoup de lectures, de choses comme ça ?
Non, c'est la toile de fond. C'est-à-dire que il n'y a pas que les capacités, moi j'y crois pas à ce terme-là. Il n'y a pas ce que tu peux développer en termes de contrôle, les notes que tu peux avoir. Il y a également ce qui t'entoure et qui est doux. Non, on pourrait appeler ça à l'américaine du soft learning.
Ouais,
c'est-à-dire
que
le fait simplement de rentrer chez toi et qu'il y a des tableaux de maîtres, qu'il y a des bouquins de grands auteurs, eh bien, visuellement, tu les intègres.
Tu baignes dedans.
Donc, quand tu vas à Saint-Germain-des-Prés chez ton oncle, parce que lui, il est académicien, et que tu traînes avec des académiciens, et qu'on t'apprend à te comporter comme il se doit auprès de l'élite intellectuelle, on t'apprend à manger comme il faut, on t'apprend à te tenir comme il faut, on t'apprend les codes. D'accord ? Et donc, chaque société... quelle qu'elle soit, à son élite. Et donc, si tu apprends les codes de l'élite, eh bien, en général, ça t'aide grave dans ta vie personnelle et après, mécaniquement, professionnelle. Parce que tu apprends le double langage. C'est-à-dire que, aussi vrai que Vincent Cassel avec son côté d'origine bourgeoise, entre guillemets, fils d'un grand acteur, donc il n'y a pas de problème au niveau des finances, du moins en théorie, eh ben, il a appris à aussi parler à la banlieue. Il a ce ton de voix. Il peut avoir la voix forte. Ouais, la voix forte que nous, on apprend en banlieue. Et pareil, cet accent un peu bourgeois, comment ça va et tout. Ça, bah, c'est un coche. Ça, voilà, c'est un style de parler aussi.
Et oui, on reconnaît, c'est des codes.
Exactement. Et si tu as les deux, si tu es capable de parler un peu comme ça, et de parler un peu comme ça, eh ben ça y est,
tu
recolles les wagons.
Et ça, c'est une vraie force.
Et du coup, tu n'es pas dans aucun ghetto. T'es pas dans le ghetto.
Tu peux t'adapter à une situation comme une autre, t'es à l'aise dans une situation comme à l'autre.
Exactement. Et ça, on peut dire que ça a été une chance dans mon parcours personnel, parce que par la suite, effectivement, rien que les relations avec le corps enseignant, ça change tout. Mmh. Ça change tout. Parce qu'à partir du moment où on sent que tu as intégré les codes d'élite, même si tes profs, ils sont des profs de banlieue, ils sont formés pour traiter avec des jeunes de banlieue, etc., il y aura toujours une sensibilité vers celui qui est, d'un seul coup, arrive à poser ses mots de manière comme il le faut, avec le code d'élite, parce que ça ressemble un peu à ce qu'on lit.
Bien sûr.
Et ça, d'un seul coup, dès que c'est plus le langage de la rue, ouais, bah on met plus d'espoir. C'est affreux. Mais
pour
c'est
toi, l'éloquence, du coup, c'est un vrai facteur de réussite?
Ouais, clairement.
Okay.
Parce qu'en fait, c'est le premier contact.
Mm-mm.
C'est la manière dont on se fait aborder dans la rue.
Ouais. C'est ce qui peut créer la surprise aussi, versus juste une apparence physique aussi.
Ça crée énormément de surprises. Moi, je m'appelle Olivier Lafrontière, je suis un grand black d'1m90, je l'ai créé la surprise plus d'une fois lorsqu'on m'a vu en vrai, parce que on me l'a dit, mais j'ai pas la voix d'un noir. C'était difficile ça à entendre. Wow. Mais ça, je l'ai entendu. Et ça m'a le plus choqué, c'était que j'ai entendu ça de la part de mes mannequins africains, qui ne m'avaient en fait qu'au téléphone ou par email jusqu'à ce qu'elles me rencontrent. Et quand elles me voient, elles comprennent pas. Parce qu'elles ont d'autres français noirs. Ils comprennent pas pourquoi j'ai pas la voix, j'ai pas le timbre. Il y a un truc qui normalement est reconnaissable facilement. Et là, en fait, j'ai pas. Et effectivement, c'est un cliché. Mmh. Donc oui, la manière dont tu parles. C'est vraiment 100% du travail pour te permettre d'avoir l'accès au système, au système scolaire, au système d'emploi, au système d'intégration, comme on appelle ça. Sans ça, tu as plus de chances de ne pas en faire partie. Quand ensuite je fais mon parcours au niveau au collège, j'ai de la chance, ma mère a voulu à tout prix que je fasse de l'allemand. Je comprenais pas, elle parlait pas allemand ou quoi que ce soit, mais elle était fan de Goethe, donc elle me force à faire de l'allemand. Je suis malheureux comme les blés, tous les copains ils font espagnol, je me dis que l'espagnol c'est trop classe,
sexy quand même, ouais.
Et en fait, ou il faut anglais parce que elle me met allemand première langue.
Allemand LV1, ah ouais, d'accord.
Ah ouais.
Dur.
Donc maintenant, je parle allemand, je m'en sers tout le temps, tous les jours.
Et c'est surtout, t'as été dans les meilleures classes, quoi.
Et je suis dans les meilleures classes, où je trime. Ouais. Parce qu'en fait, la classe qui fait allemand, c'est que la classe des A, à l'époque où on était classé par A, B, C, D, E.
Ouais.
Donc les E, fallait même pas les fréquenter, c'était ordre de notre prof principal, hein, parce qu'il nous disait qu'on était l'élite.
Et donc, déjà depuis le collège,
on
met cette matrice,
collège,
cette matrice dans la tête.
Et comme je suis en lutte, je suis trop bon pour aller dans un B, mais je suis quand même vers la fin des A. Et c'était dur, mais j'y arrive à sueur. Et au lycée, là c'est la fête, Parce qu'en fait, j'étais dans les A, là, au lycée, t'es plus classé par ton niveau, donc t'es dans une classe à la con. Et là, je suis premier de ma classe, c'est la fête. J'arrive ensuite en seconde, je décide de faire du L parce que j'ai baigné dans un univers littéraire en faisant une spécialité marthe. Alors, le truc, c'est un peu chelou. Bon, on fait spécialité théâtre. Bon, là, moi, je fais spé maths parce que je trouve ça cool, les maths, etc. Et là, Vlatipak, à la fin de l'année, ouais, pourtant les résultats sont bons. Petite conseillère d'orientation qui me propose un CAP BEP. Et il faut imaginer ce que c'est un CAP BEP dans les années 90. Même si de nos jours, là maintenant, on est tous friands de magazines, de déco, de choses qui se font en bois et qu'on est trop content de connaître le boulanger un peu tendance du coin.
À l'époque, c'était beaucoup moins sexy.
À l'époque, ça voulait dire t'es un naze.
Ouais, voie de garage.
T'es un naze.
Complètement.
C'est-à-dire.
Le fameux BEP chaudronnerie.
C'est-à-dire, ce que tu fais, c'est naze. D'accord ? Donc, tu vas faire un métier de naze. On s'en fout des notes que t'as eues là. T'as eu peut-être des coups de bol. Naze. Le truc, je suis tombé, comme je te disais tout à l'heure. Je suis tombé d'un immeuble de 30 étages, pour faire une petite référence à la petite tour qui a bercé mon enfance, la tour de 30 étages. Alors, je vous invite à aller la voir à Champigny-sur-Marne. On ne peut pas la louper, ça ressemble à un robot. D'accord, il y a vraiment, c'est un énorme 30 étages en banlieue, c'est quand même c'est pas mal. Elle est toute seule, hein, c'est tout plat. 30 étages, il y a une petite, il y a un petit bureau en haut, ça ressemble à une tête de robot, vous allez voir. Et donc, sans trop réfléchir, je suis dépité. Mais je dis non, c'est mort et tout. Donc je passe en terminale et là, boum, là, j'ai mon bac haut la main. Les études secondaires, j'apprends donc après avoir fait toutes mes applications pour les facs, etc., l'existence des prépas. Ah, c'est trop tard, mon gars, de toute façon. Parce qu'en fait, on en parle déjà depuis la troisième aux bons éléments, ou du moins les parents
bien sûr.
En parlent à leurs enfants depuis la troisième. Ma mère. Elle n'avait même pas idée qu'il y avait l'existence d'une classe préparatoire qui aurait pu me donner accès, alors pour le coup, à des trucs qui ne m'intéressent absolument pas. C'est l'école de commerce ou quoi que ce soit. Mais bon, à l'époque, années 90, je vous rappelle, on ne jure que par ça.
Ouais, c'est un passeport un peu.
On ne jure que par ça.
Bah, toujours, hein. Et un peu toujours.
Voilà, c'est...
Le réseau qu'on y fait au-delà des études, c'est le réseau qu'on y fait.
En fait, c'est la fameuse garantie de métier. La fameuse garantie de revenu très décent. Voilà, faire du négoce. C'était ça. C'est-à-dire que tous les autres métiers, faire de la radio, faire de la peinture, faire du design ou quoi que ce soit, ça, c'était les métiers encore qui étaient réservés à des gens qui étaient très à l'aise et qui pouvaient, ambitionner pour leurs enfants, des métiers artistiques totalement... totalement sans sécurité. Parce que oui, il y avait une époque où, genre, j'ai vécu dans une époque où tout ce qui n'était pas de l'ordre du CDI dans une grosse boîte où tu étais anonyme, c'était un métier casse-gueule.
Oui, bien sûr.
Casse-gueule. Non, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas faire de la moto, tu peux pas gagner de l'argent de la moto. Ah, j'ai dit, ah bon, il n'y a pas de salarié dans la moto. Alors, j'ai envie de comprendre, genre tout le monde est indépendant, genre les écuries qu'on regarde. Non, mais attends, je comprends pas là. Et à la télé, il y a non, mais qu'est-ce que vous me racontez? Et tout le monde travaille. Mais ça, tu t'en rends compte que lorsque t'as 30 ans et que tu te rends compte qu'on t'a mis vraiment une grosse banane.
La disquette a été insérée.
Une grosse disquette, tu vois, genre en gros. Mais non. Donc, je lâche pas l'affaire et j'arrive à la fac à la Sorbonne. Non, mais pas à la Sorbonne, d'abord en banlieue où je fais des études, je fais un double diplôme sociologie des organisations parce que mon oncle était... académicien et l'inventeur de cette discipline-là. Et en même temps, je fais une licence d'histoire parce que pour moi, ça faisait sens, en fait. Ça recollait les wagons et ma mère, c'était un truc qui était un peu important pour elle. Du coup, dans ma deuxième année, je dois faire une enquête sociologique sur le monde des organisations. Je peux choisir ce que je veux, une prison, un Franprix, un McDonald's, le bureau de ma mère. Eh ben non, voilà, je choisis une école, une agence de mannequins parce que plus jeune, j'avais été repéré pour faire du mannequinat, etc. Et donc voilà, ça m'intéressait bien. Franchement, ça me faisait un peu fantasmer. Je frappe à la porte de l'agence Next en 2000 ou 2001. Et là, vraiment, je frappe à la porte. Hein, et là, elle me dit ouais, si tu veux et tout, reviens demain. Et puis, écoute, voilà, on va voir ce qu'on va faire. Et effectivement, le lendemain, ça y est, je commence mon stage. Ils savent très bien pourquoi je suis là. Je suis là pour faire une enquête sur le monde du travail, voir comment ils travaillent, observer les conflits, etc. Et c'était il y a 20 ans.
Juste vraiment t'y aller en toquant à la porte au culot.
Je suis vraiment allé en toquant à la porte au culot. Faut aimer, il y avait pas l'internet, hein, ou c'était le tout début de l'internet, donc vraiment il y avait
des bottins, pages jaunes à l'époque.
Exactement, les pages jaunes de l'époque, les premiers sites internet, agences de mannequins. Et en fait, je crois que c'est le photographe qui m'avait repéré qui me parle de Next. Et donc, je dis ok, bah vas-y, c'est parti, 228 rue de Rivoli.
Tu le gardes dans un coin de ta tête, quoi.
Ouais, et puis bah, j'y vais, quoi. Mm. Et donc, je commence là-bas et direct, en plus, je commence pendant une Fashion Week. Donc, je décide de faire mon étude. Comment on appelle ça, in situ, je veux être impliqué dans le process. Ils savent très bien pourquoi je suis là. Ils savent que je suis un étudiant en train de les analyser. Je ne suis pas un stagiaire qui est là juste pour les aider. Ils comprennent que je suis là pour les aider, mais ils savent également ma mission principale. Je suis là pour rédiger les choses. Ils me voient, je suis obligé de laisser mes notes sur le bureau pour qu'ils puissent les lire. D'ailleurs, à un moment, je retranscris un conflit. Je sens qu'ils sentent que je suis en train d'écrire. Du coup, à l'heure du déjeuner, je les laisse. Et David Ressac, qui est décédé il y a pas longtemps, me tombe dessus, m'allume, que je les espionne et tout, où là, je suis obligé de discuter avec lui en disant « c'est pas de l'espionnage, je désamorce le conflit, j'explique le process, et ça a fonctionné ». Donc c'est comme ça que j'ai commencé et que ensuite... en me rendant un peu indispensable parce que je faisais toutes les tâches un peu reloues d'organisation, etc., et que moi ça me motivait, ben voilà, je me suis rendu indispensable. Moi ça me plaisait plus que d'aller à la fac, j'ai fait ma licence et j'ai pas fait mon master, et ils m'ont proposé ensuite CDD et CDI, et puis je suis resté. Après je suis parti chez Woman, qui était une toute petite agence à l'époque.
Tu restes combien de temps chez Next, du coup ?
Je reste 2 ans chez Next.
Donc un poste d'assistant.
Deux ans et demi, je pense. Exactement, un poste d'assistant. J'apprends plein de trucs vachement techniques. Alors déjà, il y avait les coursiers, parce qu'à l'époque, on travaillait qu'avec des books physiques. Du coup, je suis vraiment avec mon ordinateur, un logiciel de gestion d'entrée et de sortie des books. Ça va dans tous les sens à Paris. Il y a au moins, pour les mannequins les plus importants, 8 à 10 books qu'il faut mettre à jour avec des pages originales, donc de tirer de magazines, parce que lorsque ça va chez Publicis, BETC...
Qui sont des agences de pub.
Ogilvy à l'époque, et les agences de pub, il fallait que ça soit vraiment les books les plus beaux possibles, avec les tear sheets et pas des copies. Donc ça, c'était... J'aimais beaucoup ça, parce qu'en fait, c'était de l'organisation, je me faisais hurler dessus par les coursiers, parce qu'on était au... 5e étage et que les books pesaient très lourd et que l'ascenseur marchait jamais. Du coup, il fallait bien gérer le truc. Et après ça, il me forme à d'autres choses. Il me forme à la retouche photo, mettre les crédits. Alors ça, c'est un truc qui a été ultra important pour moi parce qu'en fait, chaque photo, chaque photo devait être scannée, d'accord ? Et ensuite mis sur le serveur pour être uploadé sur notre site interne pour pouvoir montrer les photos et les mettre dans le book électronique qui était les premiers books e-books de l'époque. Sauf qu'en fait, pour que les photos ne pouvaient pas être créditées en ensemble, je devais créditer chaque photo, une par une. Un travail sans fin. Et du coup, j'ai appris à reconnaître les styles des photographes comme ça. Une par une. toute la journée.
Ah, ça, c'est formateur, par contre.
Ah, ça, pour le coup, c'était formateur. J'avais vraiment l'impression d'être Miyamoto Musashi quand il est envoyé dans sa tour par son son bonze Shaolin et qui lui dit vas-y tu te serreras plus jamais d'un sabre, maintenant t'es là enfermé pendant 4 ans et t'étudies et puis ouais, tu fais plus de sport. Ah, c'était vraiment ça et donc ça c'était super formateur, mais il y a aussi une docilité, c'est ça qu'il faut accepter. Il y a une docilité que j'avais et que d'autres copains, par exemple, de banlieue n'avaient pas. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en banlieue, on est dans un univers tellement dur où les rapports avec les adultes sont toujours conflictuels. Parce qu'il n'y a pas d'échange.
C'est un rapport de force.
C'est des rapports de force. En gros, les seuls rapports que ils sont de nature. C'est introduction du matin et du soir, bonjour, au revoir. Voilà le rapport le plus simple. Et le deuxième rapport, tout de suite, c'est le conflit. C'est qu'est-ce que vous faites là? Vous faites du bruit, sortez de là. Il est là le rapport avec les adultes. Du coup, très rapidement, on apprend à se défendre parce que quand on est tout petit, on dit pardon, monsieur. Et il y a un moment où, en fait, il y a l'un de nous, on est plus grand, on constate dans leurs yeux qu'ils nous disent plus avec autant de punch, genre, qu'est-ce que vous faites là? On comprend, en fait, qu'ils commencent à avoir peur de nous. Et ça, c'est jouissif. Et on y va. Et on en profite. Mais on le fait tous, hein. On le fait tous. Pour un mec... C'est un peu la même chose que pour une fille qui se barbouille la tête quand elle commence à prendre le maquillage, allant métro. Ou quand on essaie de devenir sexy, on fait trop court. Tout de suite, on fait trop. Et ben nous, on fait la même chose, on fait trop. C'est-à-dire que direct, on n'est pas capable de gérer notre violence et on n'est pas capable de gérer notre potentiel agressif. Et en fait, on dose super mal. On est encore des bébés. On hurle là où en fait on a juste un peu soif. Tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr.
Et ben c'est vraiment ça. Et en fait, quand on n'a aucun élément régulateur, c'est-à-dire un plus grand, un plus grand qui nous dit hey, calme-toi et tout, tu fais de la merde. Eh bien, si on n'a pas cet élément régulateur, ben c'est foutu. On tombe dedans et le conflit s'installe. Et pour nous, c'est le mode opératoire pour n'importe quelle injustice. Et là où moi, en fait, les conflits, c'est sûr et certain que je l'ai appris dans le 6e arrondissement, c'est sûr et certain que c'est ça que j'ai appris à une certaine docilité un peu à comprendre qu'il y avait en fait une sorte de jeu où j'avais plus à perdre dans le futur que gagner maintenant. Vraiment, j'ai compris assez vite.
Une part de stratégie, du coup.
Voilà. En fait, je comprends rapidement qu'il y a un peu une stratégie. Et ça, je pense que ça m'a vraiment servi. Et une fois de plus, c'est ce qui est injuste, c'est qu'on ne nous l'apprend pas. C'est-à-dire qu'en banlieue, on est tellement... obsédé par dénicher les talents matheux, ceux qui vont... là, il n'y a pas de problème. Hein. Tu peux t'appeler Boubacar, Rachid, etc. Là, il n'y a pas de problème. T'es bon en maths. Là, on s'en fout de comment
école
tu parles.
C'est parti.
Voilà, exactement. On s'en fout comment tu parles. De toute façon, tu n'auras pas besoin de parler. Donc, on s'en fout. Vas-y, maths. Fais des maths. Et là, il n'y a pas de souci. On te pousse. Et toi, tu pourras potentiellement y arriver. Mais pour les autres, on ne leur apprend pas qu'il y a un jeu... un jeu de stratégie ou
une vision de long terme.
C'est pas que tu baisses ton froc, c'est que c'est une vision de long terme et donc tu dois jouer avec ces règles là pour que ça ne te desserve pas sur le long terme. L'idée de long terme, en fait, on nous l'inculpe pas, on nous parle simplement de faire des efforts, travailler plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand t'es jeune?
Des fois, c'est aussi la situation d'urgence dans laquelle on est. Quand on est dans une urgence financière ou sociétale pour X raisons, on a du mal à se projeter aussi sur le long terme. On essaie déjà de gérer ce qui est tout de suite devant nous.
Et ben, c'est justement en gros ce que je reproche. C'est-à-dire que quand on est un travailleur dans la banlieue, il fallait justement se concentrer là-dessus pour essayer de désamorcer ce mécanisme d'urgence. De se dire qu'en fait, t'inquiète, il n'y a pas d'urgence, mec. Il n'y a pas d'urgence. T'es jeune. Là, ce qu'on te demande simplement, c'est de t'asseoir, réponds à la question en apprenant un peu le petit texte qu'on t'a donné la semaine dernière, et c'est tout. Et c'est tout, et c'est tout. Et aussi, moi, c'est un discours que je ne peux pas supporter, qui est le discours de l'école épanouissante. Alors ça, pour moi, c'est du rêve. C'est du rêve. L'école épanouissante, c'est du rêve pour des enfants qui viennent de familles qui peuvent se permettre de prendre le temps, de réfléchir à ce qu'ils veulent faire, etc. Mais quand tu es dans une famille où c'est chaud pour payer le loyer,
c'est chaud pour tout
financièrement, eh bien, le temps, c'est quelque chose que tu n'as pas. Et en fait, si on dit dès le départ que l'école, ça épanouit, mais que c'est qu'une conséquence en fait, de l'entraînement pour la compète, et qu'en fait, t'es rentré à l'âge de 6 ans dans une compétition scolaire, voilà. Mais t'es dans une compétition.
C'est très juste, mais on le comprend tellement plus tard.
Ou tu le comprends plus tard. Et c'est bien parce qu'en fait, c'est une compétition qui n'est... C'est pas une compétition éliminatoire, en fait. On pense qu'elle est éliminatoire, mais en fait, elle l'est pas. Et ça, si tu dis que c'est une compétition qui coûte zéro à l'entrée, et qu'en fait, plus longtemps tu restes dans la compétition, peu importe ce que tu fais, toi...
Après,
peu importe ce que tu fais, et ben en fait, là, t'as tout gagné.
Donc là, à la jeunesse, Olivier vous dit « stay in school », rester à l'école.
Mais bien sûr, parce que en fait, le truc, c'est ce qui coûte le moins.
Moi, en France, c'est clair.
Moi, je suis un mec qui a dû travailler pendant ses études comme des millions de jeunes. Donc, bah ouais, il faut ramener de la thune. Bah ouais, tes parents, ils sont pas là pour t'offrir une paire de Nike, etc. Bah, tu travailles, tu te les achètes, que tu je te dise, c'est la vie.
Donc là, pour repartir sur ton parcours professionnel, donc tu fais un peu plus de 2 ans chez Next.
Ouais.
Et quelle est la prochaine étape après ça?
Prochaine étape, je suis chez Next, ça se passe pas super. Imaginez, c'est spécial, ça hurle de partout. J'essaie de me barrer, je lui dis je vais finir mon master, c'est bon, j'ai fait 2 ans là-bas. Et là, j'ai une copine qui me dit bah tiens, si tu cherches un mi-temps quand même, parce qu'il faut bien, que je travaille quoi, à côté. Il y a chez Women, ils recherchent, et donc j'arrive chez Women, j'ai 2 entretiens, et là ils me disent super, c'est un plein temps. Monsieur, c'est Sylvestre qui me dit ça, génial Sylvestre. Elle me dit bon, l'esclavage est terminé, tu seras payé 1500 et 10 euros, ce qui était une fortune, il faut imaginer. Hein, ah ouais. J'ai 23 ans et demi. J'ai pas de loyer, je vais encore à Chennevières-sur-Marne, donc c'est la fête à Neuneu.
C'est l'argent de poche.
Oh là là. Et donc là, j'ai une riche, je suis riche. Donc là, je suis comme un fou, mais bon, voilà, j'annonce à ma mère que voilà, les études c'est terminé et que.
Tu rentres dans le monde du travail.
Et je rentre dans le monde du travail. Et donc, je vous annonce, je passe déjà une première semaine à pas comprendre ce que je fais là. Voilà.
Donc là, tu rentres quoi en tant qu'agent booker, c'est ça? Assistant?
Assistant.
Okay.
Je rentre en tant qu'assistant. Pour la petite anecdote, c'était un peu funky à l'agence. Je me retrouve à un moment tout seul, seul, hein, dans cette grande pièce. C'était pas là. Et je dois gérer un. Mon premier booking, c'est la campagne Breitling avec Hélène Vandenvert pour. 25 ou 30 000 euros avec le mannequin chaud du moment qui je dois faire flyer de New York, je dois appeler Mohamed, Mohamed de chez Ta Suprême. Ah, ils me connaissent pas, t'es qui?
Surtout à l'époque, ils étaient durs. Hein.
Non, mais je suis personne et je demande une option sur la top du moment. pour un shooting à Paris, bref, ça se passe super mal. Enfin, le shooting se passe très bien, hein. Mais bon, je me fais, voilà.
C'est le baptême du feu là. Pour
ouais, baptême du feu, voilà, exactement. J'en prends plein la gueule, mais. Donc voilà, je commence assistant et avec Eric Dubois qui m'a vraiment tout appris en termes d'image. Ça a vraiment été le sensei. Juste avant ça, chez Next, j'avais mes autres maîtres. En l'occurrence, c'était la maîtresse, c'était Géraldine, qui est maintenant chez Elite et qui c'est grâce à elle, c'est elle qui a œuvré pour que je reste, pour que j'ai mon stage, etc. Et donc j'ai tout vu. Et après, avec David Ressac, Nathalie et Manu, donc c'était j'ai tout appris les prémices avec eux, et ensuite ça s'est devenu j'ai appris le reste avec
le management, l'image
exclusivement l'image, okay. Avec Eric Dubois, je connaissais pas, j'ai dû choisir des photos, etc. Je retourne sur Next, mais Next, ils ont vraiment bien fait les choses, hein. Ils m'ont envoyé à Londres pour apprendre l'anglais, donc je passais un mois à Londres le mois d'août, donc 2 ans d'affilée, logé chez Lorenzo, le patron, fête tous les soirs. Ah oui, il y avait les autres mannequins qui logeaient aussi là, fête. Ah, j'ai appris vachement bien l'anglais. J'étais au bureau de Londres, où je comprenais que dalle avec leur accent et tout. Du coup, mon anglais, ça a d'abord été de l'anglais de Londres. Ça m'a vachement servi, parce que l'anglais américain, c'était un accent que j'étais plus familiarisé. L'anglais londonien, l'accent britannique, je le comprenais pas. Et donc voilà, c'était pour la petite parenthèse formation Next. Et chez Woman, ouais, j'apprends l'image, que l'image, exclusivement l'image. Et après il y a un changement de management, et là je c'est Bruno qui arrive, qui lui était fraîchement débauché de chez IMG, qui était l'agent de Gisèle Bündchen, et là j'apprends le côté business. Alors lui, il est absolument pas dans l'image, il en a rien à faire, entre guillemets, il en a rien à faire.
Lui, on apprend la facturation.
Voilà, c'était plus
les gros contrats.
Voilà, comment tu deal, comment tu gères un mannequin comme à la IMG, comme un client. Et moi, j'avais déjà l'idée que le travail que je faisais, les books, n'étaient que des catalogues pour la vente. Ils n'avaient pas pour fonction, en fait, d'être beau, mais ils avaient de fonction comme un catalogue de fringues, d'être appétissant.
Donc pour le client d'avoir envie de booker la fille.
Exactement.
Comment la mettre le mieux en valeur pour qu'elle puisse avoir
et
le
donc,
job.
Et donc ça, c'est cette notion business qui est apparue donc, dans la phase 2, avec équipe 2 de chez Woman Management, qui était une société qui perdait beaucoup d'argent, qui n'en s'en sortait pas et qui finalement... a réussi à faire des trucs formidables. Donc avec cette équipe là qui s'embrouille avec le grand patron de Woman, il décide de se barrer. Nous, comme des fous, on se barre en claquant la porte, et on monte il monte cette agence WM où en fait ça aura duré 8 ans à ne pas vraiment marcher, en faisant des choses formidables, mais jamais vraiment à bien marcher.
Du coup, tu restes entre les deux équipes, tu restes combien de temps chez Woman ?
Ah bah chez Woman, je fais 2004-2008.
Ok, 4 ans.
4 ans, et 2008, on se barre.
Et vous montez WM.
Et on monte WM, et là, j'ai appris ce que c'était de travailler dans une société qui va mal. Mmh. Et d'être introduit aux problématiques d'une société qui va mal. Et on apprend, malheureusement, c'est comme en banlieue, on apprend plus quand on n'a rien, quand on sent qu'on est en péril. Et ben là, on devient intelligent.
On se retrousse les manches.
Là, on devient intelligent. Là, on devient intelligent. Là, c'est là. Et c'est là-dessus que j'ai fondé ma philosophie, qui est l'intelligence du pauvre. Et je le répète ça en permanence, je dis la pauvreté, c'est pas la pauvreté financière, c'est la pauvreté de moyens. C'est-à-dire vous n'avez pas en main ce dont vous auriez besoin pour arriver à ce que vous voulez, mais donc vous allez devoir faire autrement. Parce que vous n'avez pas d'autre choix que d'arriver tout de même à la même conclusion. Ça, l'intelligence du pauvre, l'intelligence... Et c'est cette intelligence-là qui, pour moi, est la plus génératrice de talent. Il faut commencer avec rien, entre guillemets. Il faut commencer, quand on veut être agent, il faut commencer avec peu de contacts, parce qu'il faut avoir la force de s'en créer d'autres. Quand on commence une agence, il faut commencer avec peu de mannequins, parce qu'il faut montrer qu'on est capable de recruter d'autres. Etc, etc, etc. L'intelligence du pauvre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a, entre guillemets, pareil, m'a un peu formé, mais a posteriori. Voilà, je me suis rendu compte, en fait, que j'avais jamais eu vraiment les moyens idéaux pour faire ce que je voulais. Bah, j'ai dû toujours me débrouiller pour y arriver, avec quand même toujours des conditions un peu décentes, parce qu'il ne faut pas que ce soit non plus trop, trop pauvre. Il faut quand même qu'il y ait un peu un minimum. Mais tu fais avec ce que tu peux quand tu n'as pas. Et là, avec WM, c'était ça. On avait un sale nom, donc WM, ça sonnait pas. Bah, fallait quand même faire avec. Du coup, il fallait trouver d'autres manières de communiquer pour être un peu plus sexy. Comme je leur disais, écoutez, on avait déjà fait ça, un test chez Woman, avec les Françaises, puisque l'argent est important, et que dépenser de l'argent, c'est pas trop le sujet, donc pourquoi pas investir dans un maximum de Françaises ? Et elles sont là. Je dis, si on fait un calcul bête et méchant, quel est la chance qu'un mannequin non français, par rapport à un mannequin français, obtienne un booking plutôt qu'un mannequin non français. Est-ce qu'il y a un rapport clair qui fait que quand c'est non français, il y a plus de chances de décrocher le booking ? Je veux savoir. Et ben, pour moi, le calcul, non. Non. Donc, si elles sont françaises, ça fonctionne autant que si elles ne sont pas françaises. Si elles sont françaises, elles sont disponibles. Elles sont là.
Il n'y a pas d'investissement.
Il n'y a pas d'investissement. Donc, on a plus de temps, on a moins de stress, elles sont à l'école. Donc, en fait, on a tout à y gagner. Et donc, c'est ça que j'ai mis en place chez WM, ou du moins en continuant à vouloir travailler avec des Françaises. Et donc, c'est devenu un peu la marque de fabrique, un peu ma marque de fabrique, d'Olivier qui aime bien les Françaises. Et en fait, en recrutant beaucoup, beaucoup, beaucoup de Françaises, je me suis aperçu que les Françaises que je prenais étaient effectivement des étudiantes de Paris, exclusivement de Paris, et qui appartenaient à un milieu social souvent aisé. Souvent aisé. Et ça marchait. Ça marchait. Donc ça dure 8 ans, 8 longues années. Il y a vraiment eu beaucoup de bas, très peu de hauts. La société se vide de tous ces éléments. D'abord les mannequins, ensuite les agents, et je suis le dernier, parce que la fidélité pour moi c'est important. Et quand c'est sur le point de fermer, j'ai dit va falloir que je trouve une solution, et j'en parle à mon mannequin principal, Camille Hero. Je pense qu'on va finir quoi. Elle me dit je vais monter mon agence. Elle me dit grave. Donc je me renseigne. Apparemment dans les statistiques, comme beaucoup de jeunes entrepreneurs, on entreprend parce qu'on n'a plus d'emploi. Donc on n'a plus d'emploi. J'ai la chance d'avoir des amis qui me supportent psychologiquement. Hein. C'est important.
C'est un moment difficile pour toi, du coup. Hein.
C'est alors en
cette
fait
transition.
En fait, on est trop dans l'urgence. Et ça, c'est pareil. C'est quand on est habitué à la difficulté, on est trop dans l'urgence pour réfléchir à son état mental.
On est dans, ouais.
On est dans l'action. Là, le loyer est en question. Donc, on est vraiment dans la recherche de solutions immédiates. J'ai pas de chômage parce que j'ai accepté un deal qui fait que j'ai pas de chômage. Donc, vraiment, demain, ça s'arrête. Demain, j'ai plus rien. Et j'ai un loyer à payer. Donc, j'y vais à fond. J'ai de la chance. Hein. Moi, ma meilleure amie, c'est Natacha Poli. Elle me donne des conseils. Elle m'aide. J'ai la chance d'être très très bien entouré. Et
Natacha, qui à cette époque-là est la star des mannequins.
Oui, voilà, vraiment, qui est la star des mannequins. Ouais.
Au firmament de sa carrière.
Exactement. Donc c'est ma meilleure pote. On s'est rencontrés jour numéro 1 chez Next. Elle, c'était une new face qui faisait du glamour. Et moi, je débarquais, je ne savais même pas ce que c'était une photo. Donc voilà, c'est. Et elle me dit, bah voilà, écoute, t'as raison, lance-toi, vas-y. Et puis elle me dit quelque chose de juste. Elle me fait, voilà, écoute, ça marche pas, t'iras travailler dans une autre agence. Voilà, t'es pas trop mauvais, ça devrait aller. Donc, bah écoute, ouais, t'as pas tort. Bah c'est parti, je me renseigne, je fais ça, je fais ci, et là, je balance le truc, mes 1000 balles dans le cabis pour pouvoir monter la société. Et les mannequins qui allaient se retrouver à la rue chez WM, il y en a 10 qui viennent avec 10 qui viennent avec moi, ce qui est énorme, dont mon top modèle. Faut rappeler Camille, c'était encore du lourd, enfin je veux dire, c'est du lourd maintenant, mais vraiment, tu vois, voilà, c'était
parfum, quelqu'un. Victoria's Secret,
voilà, Victoria's Secret, les parfums, le Dior, c'était chaud.
Donc ça, c'était un peu ton produit d'appel aussi, peut-être pour faire venir d'autres filles dès le départ, le fait qu'elles soient avec toi dans cette nouvelle aventure.
J'ai pas eu le temps de y penser. Parce qu'en fait, je démissionne en juillet et j'ouvre en novembre. J'ai pas eu le temps d'y penser. Je suis obsédé par mon loyer. Hein. Mmh. Il faut payer le loyer. J'ai rien.
J'ai donc rien. Tu fais même pas une pseudo réflexion stratégique de positionnement.
Rien du tout. Je suis un soir, je suis dans mon appart, je Google nom de domaine, je me crée une adresse email. Ça s'appelle La Frontière Management parce que je sais pas comment appeler le nom de la société entre temps. Je sais plus, on se parle avec Camille parce que c'est les moments où c'est intense. J'ai dit à un moment, je sais pas quoi, girl, ça te parle ou quoi et tout. Et elle me fait, attends, là, je vais, hey, my agency is girl. Elle fait, ouais, c'est cool. Ok, d'accord, bah hop, girl, c'est bon, on en prend, j'envoie ça au cabis, allez, donc commercial, c'est girl. Faut imaginer, là, on est encore au mois de juillet, peut-être début août. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je commence à. On est au mois d'août, donc juillet passe. Personne n'est au courant que j'ai démissionné. J'ai démissionné fin juillet.
Ouais.
Donc, août, New York commence. Et moi, je parle à tout le monde comme d'habitude. Il voit mon adresse email qui a un peu changé, quoi que ce soit, je sais pas quoi. Il me parle comme d'habitude, vraiment comme d'habitude. Il me pose des options, je book des shows à New York. Mais t'es plus chez WM? Non, je suis chez WM, maintenant c'est girl. Ah ok, d'accord, bon, tu m'envoies ton truc. Il n'y a pas eu d'effet d'annonce ou quoi que ce soit, le truc. Il n'y a jamais eu de rupture.
Ouais.
Ils n'ont pas entendu.
T'es resté en contact.
Ils n'ont pas entendu parler de moi pendant 2 semaines, du 1er août au 20 août.
Quand tout est fermé.
Quand tout le monde était en vacances. Ensuite,
t'as fait ton petit truc.
Ensuite, j'ai fait mon petit truc, à courir partout dans tout Paris, à la rue de la Banque là, pour les cabis, etc. Direct au mois de d'août, je parlais déjà avec eux comme si de rien n'était. Et en fait, le mot a circulé que j'ai monté mon agence. Mais ils n'avaient pas capté. Du tout. Tout ça, ça se passait de mon appart. Avec composite imprimé de mon appart. Et là, pareil, intelligence du pauvre. C'est devenu maintenant ma marque de fabrique. Je me disais, attends, quelle est la chance qu'un mannequin soit pris s'il a un composite qui coûte 2 euros
ou 20 centimes.
2 centimes.
2 centimes.
On parle là, attention, je te parle de la plaquette de papier, office dépôt,
ouais, ouais.
Et de mon imprimante que ma sœur m'a offert à Noël. Bon, je suis pas sûr qu'on soit à 20 centimes. Hein. Je pense qu'on est à beaucoup moins. Je vois qu'il y a des bookings. Moi, je suis désolé, hein, je fais un rapport bête et méchant.
Pragmatique.
Ça veut dire que ça marche. Donc, ça veut dire que le composite à 0 euro, quasiment, fonctionne autant que le composite qui coûte 2 balles. Vas-y, hein, tu sais quoi, je reste avec le composite à 0 euro, hein, intelligence du pauvre, hein, moi, je m'en fous. Allez, hop, je fais les retouches sur mon portable. Les photos pour les passer en sépia et tout, je sais pas quoi et tout. Tout ça sur mon portable. Alors, quand je dis portable, c'est le téléphone. C'est pas mon ordinateur portable Mac dernier cri. Non, non, j'en avais pas. C'était mon iPhone 3 ou 4. Voilà.
Oui, et puis t'es le premier aussi, il faut dire, sur ces composites, donc en papier de l'imprimante, où c'est pas une photo d'un book, d'un édito ou d'un job, mais c'est ce qu'on appelle un digital, c'est-à-dire une photo prise avec ton téléphone dans le salon, pour le coup.
Dans la cour de mon bâtiment, effectivement.
Je me rappelle très bien.
Voilà, dans la cour de mon bâtiment, pris avec mon téléphone, parce que bah ouais, j'ai pas de photo à vendre ou quoi que ce soit.
Et non, mais ça tranche aussi par rapport à ce que font les autres agences. Et
ouais, bah,
et tout de suite.
Il n'y a pas de stratégie marketing, hein, je peux vous le dire tout de suite. Rien du tout. Et donc je balance le truc comme ça et en fait l'idée de girl elle était maintenant je tombe un peu dans genre l'ADN du truc. Dans ma tête, j'imaginais un groupe de filles qui se pointaient dans leur école et qui avec une pointe de compas vandalisaient le tableau noir en écrivant girl.
C'est une vision, ça, hein.
Je voulais qu'on comprenne que c'était pas une agence pour les petits enfants ou quoi que ce soit. Non, c'était juste le côté rebelle qu'on a quand on est jeune et qui perdure.
Et même sur l'identité visuelle, du coup, que t'as
tout.
Mis.
Qui perdure et qui soit, du coup, un peu franc. Voilà, c'est ce que je suis. Et j'ai pas pensé que ça pouvait faire sens avec des photos prises avec mon portable où il y avait quasiment pas de retouches. J'ai pas pensé du tout, en fait. Je voulais juste qu'il y ait un rapport brut.
Donc là, du coup, tu te retrouves en tant que patron et donc rapidement avec des employés. C'est une responsabilité
très rapidement,
vraiment différente de ce que tu avais été.
Exactement. Et en fait, en devenant employeur, je découvre autre chose, un autre monde, le premier monde de la paternité. Et je me rends compte que j'ai eu tellement des mauvaises expériences avec mes anciens employeurs concernant la gestion des mannequins, pour parler que des mannequins, pour pas parler des autres employés qui sont là à plein temps, vis-à-vis de leur non-information sur tout ce qui faisait tout ce qui fait la vie, en fait, hein, c'est-à-dire la TVA, les taux sociaux, ce qu'est un brut, un net, toutes ces choses techniques qu'on nous apprend, genre, juste pas, et dont on ne parle pas aux mannequins, dont on ne parle même pas aux employés. Moi, j'étais un employé où on ne m'informait pas. Quand j'ai dû payer mes premiers impôts, ça a été horrible. J'étais à découvert pendant plus de 2 ans parce qu'on m'avait pas dit que les impôts, on les paierait d'un seul coup. La première année, j'étais au courant de rien. C'était
horrible. On m'a jamais dit que je pouvais avoir des chèques restaurants. On m'a jamais dit des genres de choses là. Et donc là, je parle d'employés à plein temps. Et la même chose pour les mannequins. On leur disait pas que le contrat en France c'est pas vraiment un contrat, que c'est un truc en fait qu'elles peuvent signer avec 10 agences si elles le souhaitent, et que c'est juste une pratique où en fait elles sont avec une agence comme dans une équipe de foot, mais qu'en fait si elles veulent elles peuvent intégrer 10... et donc il y a plein de choses comme ça que je connaissais pas, que j'ai appris et que j'ai décidé de partager avec chaque mannequin qui rentre dans l'agence. Le pauvre ou la pauvre, il se tape une heure avec moi, et au bout d'une heure, je veux juste qu'il sache une chose: combien il gagne, quand il est payé, de toute façon c'est à la fin du mois, comment il peut se barrer. Comment il peut se barrer. C'est surtout ça qui compte. Comment il peut se barrer. T'es pas content de moi, tu te barres comme ça. C'est les premières choses. Après, je lui fais son petit calcul de savoir combien l'agence elle gagne, combien toi tu gagnes. Et je fais toujours la différence, c'est pas l'État, parce que l'argent, dans une considération technique très rapide, il y a l'argent de l'agence, la fameuse commission là de 20% plus 20%, 40%, et les 60 sont pour le mannequin. Ces 60 vont se diviser en deux, littéralement. Il y a une partie qui va être sauvegardée pour lui, à son nom, dans les caisses de l'État. Et l'autre partie va finir sur son compte bancaire. Donc, les mannequins, ils ne le savaient pas. Je ne vous parle même pas des mannequins étrangers. Donc, ça, c'est devenu maintenant la chose pour moi la plus importante dans mon métier. C'est que, je fais... des trucs, du boulot, etc. Mais ce qui compte, c'est combien elle gagne, quand elle gagne. Et la clarté est la plus absolue pour ces jeunes pour qui je suis le premier rapport au travail. Il y a eu personne avant moi, elles ont 18 et 25 ans, il n'y a eu absolument personne avant moi. Et s'il y a eu quelqu'un avant moi, il est du même ordre, c'est-à-dire de l'intérim. Parce qu'il y a l'agence de mannequins, c'est de l'intérim. C'est de l'intérim de l'amour, mais c'est de l'intérim tout court. On rentre, on fait la mission, on sort. Congé payé en même temps, solde tout compte fait au même moment, c'est de l'intérim, il n'y a pas d'autre mot.
Ouais. En parlant de ça, tu me donnes la transition parfaite. On parlait d'ADN de Girl. Il y a une chose que tu n'as pas forcément mentionnée, mais qui est assez reconnue sur le marché, c'est que tu as été un précurseur de l'inclusivité.
Ah oui, alors ça, j'y ai pas pensé du tout.
Ouais, qui aujourd'hui, en fait, est un mot qu'on se mange un peu à toutes les sauces. Toi, comme tes précurseurs, en fait, on peut pas douter de ton intention et de la sincérité de ton geste. Par contre, aujourd'hui, je me dis que parfois, il y a peut-être des intérêts commerciaux et on n'est pas forcément dans des démarches qui sont hyper saines.
Ouais.
Est-ce que toi, t'arrives à le détecter, ça, quand vraiment c'est...
Ah bah oui, totalement. En ce qui me concerne, j'ai mon scouting, et Nicolas peut en être témoin, il est très particulier, je pense, parce que il est déterminé à 100% par ce que moi, je trouve beau.
Alors, super, c'est quoi ta définition de la beauté? C'était la question que...
Ce qui me plaît, à moi.
Donc c'est très très subjectif, enfin par essence c'est subjectif la beauté, mais...
Ultra subjectif. Et ultra personnel, c'est-à-dire que malheureusement, dans mon agence, personne d'autre ne choisit les mannequins que moi.
Ok, et t'as même pas... C'est quoi, c'est une liste de critères? T'as un œil pour quelque chose? C'est une vibe?
C'est ce que je trouve beau, moi, et j'en ai rien à faire qu'elle soit grande, petite... acheter, que sais-je, j'en sais rien, mais par contre tu peux voir mon goût global en allant sur le site. Il y a un goût global
que tu arrives à définir ou pas?
Ah non, j'arrive pas à définir
C'est un ressentiment du coup. C'est quand vraiment... tu rencontres la personne ou que
Ah ouais. C'est immédiat. Il y a pas de calcul. C'est ultra émotionnel. J'ai tout le temps que je suis amoureux de chacun de mes mannequins. C'est un truc de fou. C'est chacune d'entre elles. C'est qui ne bosse pas du tout. Du tout, qui ne marche pas, et pour moi, j'ai un truc.
Autant que celle qui cartonne.
Oui, autant que celle qui cartonne. C'est vraiment ultra personnel. Et surtout, voilà, c'est une chose très importante, puisque j'ai une agence de mannequins, donc il y a la question de défilé de mode. Jamais je ne parle de mensuration avec mes mannequins. Mais pas une seule fois, rien du tout. Quand elles m'en parlent, la seule chose que je peux leur dire, c'est que franchement, t'as 20 ans, je sais pas quoi te dire, t'as 20 ans, t'as 14 ans, t'as 17 ans, je sais pas, si tu loupes tes cours de PS, vas-y. Si t'es pas assidu à ton cours de d'activité physique, je sais pas lequel c'est, ta danse ou ton truc, retourne-y, mais j'en sais rien, vous êtes des enfants, vous courez tout le temps, il y a pas de question de poids, j'en sais rien, soyez juste jeune, faites de l'activité, oui voilà, faites de l'activité, de toute façon ça changera pas du jour au lendemain, ce dont on parle, donc j'en ai rien à faire. Oui, mais pour les défilés. Ouais, pour les défilés, moi je te trouve magnifique comme tu es. Écoute, si je considère que t'es pas bonne pour les défilés, je te mettrai pas dans le showpack et voilà, je veux même pas qu'on en discute. C'est tout. Mais de t'avoir toi malade pendant 3 semaines, juste en te disant que c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir le casting Dior, non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. On a fait notre réputation dans cette société grâce à ce qu'on avait réussi à obtenir sans défiler. J'ai réussi à monter des mannequins sans passer par la case défilé, à faire ce que je considère étant le plus dur. Eh ouais, la manière dont tu présentes son visage, la manière dont tu harcèles le client, que sais-je, sans le rapport mécanique du défilé, parce que le défilé, il y a un rapport mécanique qui est très confortable. Ah, on fait le gros défilé, gros magazine, tout le monde te veut, c'est un vrai système, c'est vrai que c'est très confortable. Voilà, nous on prend le truc le plus dur, elle est petite, fait 1m20, etc., mais un visage de foufou. Vas-y, attends, on y va, attends, présente-la comme il faut, snapshot, il faut faire rêver, vas-y, on y va, et tout, fais du beau, et on est parti, on va y arriver. Donc j'ai beaucoup plus travaillé là-dessus en me disant que, de toute façon, mon client, il voit quoi quand je lui ressens un package? Il voit un visage. Il n'a pas que ça à faire que de regarder toutes les autres photos. Donc, de base, si le visage, on fait du mannequinat quand même. Donc, le mannequinat, c'est quand même du visage. Donc, c'est un peu comme les chats. Si la tête passe ou passe. Tu vois? Donc, visage. C'est mon obsession. Visage. La première photo. Et puis ensuite on voit, si elle est trop petite, si elle est trop ci, elle est trop ci, que je te dise. Guess what, finalement, elle est jamais trop petite, elle est jamais trop ci, elle est jamais trop ça. Ça marche, parfait, allez hop, visage. Pour moi, dès que le visage m'éblouit, c'est bon, tout passe. Qu'on me sorte pas, trop d'épaule, tu sais, je pense que tu devrais perdre ce truc, tout ça. Je laisse d'autres sociétés ou d'autres agences... avoir des méthodes qui fonctionnent extrêmement bien, parce qu'elles ont décidé de s'orienter massivement sur le défilé. Voilà, moi c'est pas trop mon truc. C'est vachement personnalisé. Ouais,
c'est une stratégie différente. Justement, donc aujourd'hui, c'est quoi un peu ta méthode pour détecter les nouvelles faces?
Alors là, moi je suis parti dans un grand jeu. De recherche Paris banlieue un peu scandaleux où sur Instagram je leur demande de se présenter. Là d'ailleurs ça a été une semaine où je vais rencontrer pas mal de talents, mais la stratégie c'est Paris banlieue. Je veux un maximum de jeunes de banlieue qui puissent, peu importe la banlieue, riche pauvre, qui puisse profiter du mannequinat, de la possibilité de rencontrer ces nouveaux métiers, d'avoir une première expérience professionnelle en ayant conscience des de la technicité sociale avec la compréhension du brut, du net, et etc., du paiement de l'impôt et tout, et surtout qui leur permettent d'avoir des revenus pour qu'ils puissent mieux travailler dans leur secondaire. Mieux. Cool. Ne pas avoir à travailler au McDonald's, à faire beaucoup d'heures, beaucoup de temps, si possible. Voilà. Et c'est comme ça que je le vois chez toutes les étudiantes, et j'ai des étudiantes qui cartonnent. J'en ai une qui vient de passer son barreau anglais. Là, tout le monde a eu ses MBA, vient d'être diplômé, grâce, eh ouais, à ce petit argent de poche qu'elles ont gagné ici et là, mais également grâce à ces relations qu'elles ont réussi à maîtriser avec des clients. Quand on est tout seul, on arrive tout seul sur le plateau. On arrive tout seul sur le plateau, on gère, allez, 3 personnes quand c'est quelque chose de très modeste, 10 souvent. Il faut apprendre à se comporter, il faut savoir...
C'est une expérience sociale.
C'est une expérience sociale et c'est une expérience professionnelle.
Avec de la hiérarchie.
Avec de la hiérarchie. Comment on part, quand on dit qui, on dit bonjour à qui, on dit bonjour à tout le monde. Enfin, c'est une expérience professionnelle. Et ça, ça leur sert. Donc, ça dégage du temps pour d'étudier mieux. Ça ramène de l'argent pour pouvoir peut-être investir mieux dans ces outils de travail pour étudier. Et en même temps, on a un stage avec des gens qui potentiellement peuvent devenir tes employeurs dans 5, 3, 10 ans, que sais-je. C'est la manière dont je vois le mannequinat chez moi. Je ne le vois pas de manière très glamour, même si le glamour, c'est ce qui m'intéresse le plus.
C'est le décor.
C'est que du décor. Moi, je ne vois que formation jeunesse à des métiers. Formation jeunesse à des métiers.
C'est très beau.
Maîtrise.
Très noble.
Maîtrise de la société dans laquelle on est.
Mais j'ai l'impression que tu es entré dans la mode par cette petite porte de l'étude sociologique, et qu'en fait c'est un fil conducteur que tu as vachement gardé tout au long de ta carrière en t'écoutant parler.
Exactement. J'ai toujours continué à faire mes travaux sociologiques, toujours continué à m'informer sur les manières dont je pouvais développer mon rapport avec les employés ou le social dans une société. En général, ça a été ma formation de base, et je pense que, alors il y a des fois c'est un rapport un peu rugueux, parce que je suis du coup procédurier, mais j'en suis toujours arrivé à l'idée que c'est une sorte de mal nécessaire. C'est un peut-être un peu ma formation allemande. Ça, c'est quelque chose... Je m'entends très très bien avec les Allemands, je travaille très très bien avec les Allemands. C'est quelque chose qui est une sorte de droiture, un peu rugueuse, mais nécessaire. Mmh. Et donc j'ai... ce que je veux, c'est que les mannequins qui soient passés par chez moi puissent dire à 100% c'était droit tout court. Pas que j'ai appris quelque chose, non, c'était droit.
T'es carré.
Tout court. D'accord. Donc oui, et après, alors il a fait ça pour moi, on a booké des trucs, ça c'est le boulot du quotidien.
C'est très marrant cette dualité entre le côté très carré et le côté rebelle dont tu parlais tout à l'heure. Et du coup, ça m'emmène à ma prochaine question. Je me suis baladée un peu sur le site hier et j'ai noté 2 trucs et j'aimerais bien que tu nous en parles.
Vas-y.
La première, c'est ce chat tend un peu plus vers le tigre, même parce qu'il a l'air quand même bien bien vénère, que tu as sur ton t-shirt aujourd'hui, ouais. D'ailleurs.
Alors, c'est donc ce chat existe. C'est mon chat. Elle s'appelle Matchat et effectivement, c'est un chat très énervé. Tout mon entourage la connaît. Elle est extrêmement agressive. Ne peut être caressée que par moi et Tiff.
personne d'autre. Elle a sauté sur le dos d'un nombre de copains incalculable, griffé un nombre de personnes incalculable. Et donc, quand j'ai ouvert la société, quand j'ai eu le bureau, le tout premier bureau, eh bien, je m'étais dit que dans mon idée, pareil, high school à l'américaine, j'aimerais bien que ça soit comme une équipe de football de l'école, qu'ils aient un emblème, etc. Et donc, je me suis posé sur à la table que je venais de faire. Donc, je rappelle, c'était un plan de travail de cuisine relié par une bretelle en fer et mis sur des pieds. Voilà.
C'est dans la débrouille.
La débrouille.
Et la deuxième chose, c'est ce slogan qui est associé au chat, du coup.
Ça, c'est
More stage dives, less catwalk. Pour les non-anglophones, stage dive, c'est l'acte de plonger dans la foule.
Ouais. Ouais. Donc, Stéphie, qui est une de mes meilleures amies et qui travaille aussi avec moi, c'est une encyclopédie du rock. Nous deux, on est à fond dedans. Et quand j'ai fait le chat, elle m'avait trouvé une image. Donc cette phrase, c'est pas, elle vient pas de moi. Je l'ai emprunté à un truc de rock qui traînait. Et je pense que ça symbolisait vraiment en fait notre idée qu'on se faisait du mannequinat où on était absolument pas obsédé par les défilés, mais absolument pas, mais beaucoup plus par le truc vivant. De la street. Et donc quand j'ai vu le More Stage Dies, Less Catwalk, j'ai dit bah c'est exactement ça.
Ah ouais, t'as trouvé du coup la phrase parfaite, quoi.
La phrase parfaite. Donc je l'ai volée. Le jour où on sera une entreprise cotée au 440, je me ferai accuser et tout, je devrais mettre une virgule ou un truc ou changer quelque chose.
Pour l'instant ça va,
ouais.
Ok. Et un dernier truc, on a vu avec Nico que tu avais lancé L'Homme très récemment. Est-ce que tu nous en parles un petit peu ?
Ah bah ouais, carrément. Alors, le L'Homme, ça m'est tombé dessus grâce à un copain, en fait, qui me dit « Olive, tu veux pas... j'ai des mecs, ça te dit de les avoir ? Ouais, vas-y.
Un pote à toi qui est agence mère, du coup, scout.
Ouais. Ouais, bah vas-y et tout, pourquoi pas. Ah bah tiens, j'en ai 1, 2, 3, 4, j'en ai 6. Ouais, bah vas-y, je prends. Et dans la même journée, je crois, j'ai un autre pote à Londres qui me dit « Ouais, je dois déclarer ces deux mecs pour Saint-Laurent et tout. Ouais, d'accord, pas de souci. Mais tu veux les garder ?» Ouais. Bah voilà, ok.
Concours de circonstances.
Voilà, c'est passé comme ça. Et bah du coup, c'est quoi ta section ? C'est boy ? Bah non, c'est girl. Mais bah voilà, c'est tout, on se prend pas la tête. C'est quoi le problème ? Y a pas de problème, non ?
Ok, super. Écoute, on va finir l'interview par quelques petites questions gimmicks.
Oui.
Tu réponds ce que t'as dans la tête. Le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné ?
Le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. Alors c'est pas un conseil, c'était un fait. C'est Bruno, il m'a dit you're as good as your last booking.
Punchline.
C'était tout. Tu ne vaux que ce que tu viens d'accomplir.
Fort. La tendance mode que t'as jamais compris.
La tendance mode que je n'ai jamais compris, c'est difficile parce qu'en fait avec le temps on comprend tout. Donc
c'est peut-être dans les trucs nouveaux. Hein.
Bah non, parce que j'aurais pu dire la tectonique, mais la tectonique c'est me en quelque chose d'autre et du coup elle se comprend et c'est. Mais je crois que j'en ai pas.
Ok. Est-ce que tu as un talent caché ?
Alors, pas caché.
Avouable ou inavouable, hein ?
Je peux parler comme ça, voir ça. Mais ça, tu peux jamais montrer à la caméra. Et donc, j'arrive à parler en gonflant mes joues.
Visuellement, c'est drôle.
Et je peux avoir de l'eau et un liquide.
Et parler quand même.
Donc voilà.
Ok, ton guilty pleasure.
Alors, c'est... voilà, là. C'est... Qu'est-ce que pourrait être mon petit guilty pleasure? C'est le jeu vidéo. Hein. Bah ouais, c'est le jeu vidéo.
Quel dernier jeu vidéo du coup?
Ouais, non, voilà, c'est chaud. Voilà. Donc c'est un truc de fan. C'est Saint Seiya Awakening qui est sur un portable, mais parce que je suis un fan de Chevalier Zodiac.
Moi aussi. Et il faut que je te présente Xavier, qui est aussi accro à ce jeu sur son portable.
Voilà. Donc je suis au niveau 52. C'est
énorme.
C'est un 54 d'ailleurs. Je comprends pas.
C'est la ref. Et la toute dernière question, l'emoji que tu utilises le plus?
C'est le salut hawaïen avec du surfeur.
Ok.
Voilà. Pousse Alex.
Nice. Écoute, merci beaucoup, beaucoup pour ton temps et tous les insights que tu nous as donnés. On aime bien poser une dernière question pour finir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
D'être toujours bienveillant.
Merci.
Voilà. Salut.
Salut.